mode d'emploi.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Bienvenue dans l'émission Mode d'emploi avec l'équipe de la 4e dimension. Claude à la technique, Corentin et Laurent au micro. Bienvenue avec nous jusqu'à 21h30. Nous allons aborder ce soir le sujet des violences faites aux femmes.
Et oui, la discussion sur la place de la femme dans notre société est un sujet d'actualité. Les lois qui sont portées par nos politiques qui s'accaparent du sujet, les animateurs, radio, le droit des femmes est effectivement dans notre information toutes les semaines. On se rappelle aussi, il y a un an, de l'affaire MeToo et Balance ton porc, qui a amené des débats, des polémiques variées, une libération de la parole. Mais on se pose la question ce soir des effets d'annonces qui ont été faits et quel est leur impact. On semble loin du compte. Effectivement, on est toujours dans une situation critique. Un décès tous les 3 jours de femmes par leur conjoint, 6 fois plus que les hommes. Plus de violences sexuelles pour les femmes, du coup, un facteur 4. Une femme sur 5 est aussi confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. La femme est menacée partout et pour tout. Dans son foyer, qui est l'endroit le plus dangereux, étonnamment, pour les femmes, mais aussi au travail, qui est un royaume d'inégalité, dans la rue, et même dans leurs convictions, où les attaques sur les droits des femmes sont quotidiennes, et l'actualité, surtout aux États-Unis, nous fait remarquer qu'il est important de garder ce combat en tête. Nous allons aujourd'hui évoquer qu'une partie de ce sujet, en abordant le harcèlement au travail. Une petite partie, certes, mais qui est quand même représentatif de cet ensemble, de la position de la femme dans la société.
Donc nous avons deux invités ce soir. Donc Isabelle Pinault, bonsoir.
Bonsoir.
Donc de l'Association des violences faites aux femmes sur le lieu de travail.
Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, oui.
Et donc Jessica qui va nous rejoindre, donc qui est une personne qui a été victime de harcèlement et qui est soutenue et défendue par votre association.
Tout à fait.
Donc cette émission, vous pourrez la réécouter mercredi prochain à 7h du matin sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Vous pourrez aussi la podcaster comme toutes les précédentes sur le site internet de Mode d'emploi, www.mode-emploi.net. Et vous pouvez nous appeler, donc le numéro de téléphone, écoutez-le bien, c'est le 01 40 05 06 10.
Avant de commencer sur pour mieux comprendre ce qu'est le harcèlement sexuel, on va vous laisser, Isabelle, la parole pour présenter votre association. Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle apporte. Mmh. On y reviendra aussi en fin d'émission pour savoir donner aux interlocuteurs l'occasion de vous contacter.
Ok, très bien. Donc l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail ou plus simplement l'AVFT, existe depuis 34 ans. Elle a été fondée par 3 femmes, dont une femme qui était victime de harcèlement sexuel au travail dans la fonction publique. Et il y a 34 ans, le délit de harcèlement sexuel en 1985 n'existait pas dans le code pénal. Donc c'était pas interdit. Le harcèlement sexuel, ça n'était pas interdit. Et non plus, du coup, dans le code du travail. Donc, il n'y avait aucun moyen de reconnaissance du préjudice subi au travail par le fait d'être victime de harcèlement sexuel. Donc, le premier combat de l'association, ça a été de faire en sorte qu'une loi soit votée pour interdire le harcèlement sexuel. C'était en 1992 qu'il y a eu une première loi qui disait que le harcèlement sexuel est le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Donc c'était une loi très incomplète parce que c'était une loi qui ne reflétait pas toute la réalité des situations de violence sexuelle au travail. Parce qu'en fait, beaucoup de harceleurs sexuels n'ont pas l'intention d'obtenir un acte de nature sexuelle quand ils harcèlent sexuellement des femmes, mais simplement, uniquement pour les humilier, les rabaisser, se sentir plus fort, etc.
D'accord.
Et donc,
Le terme sexuel se rapporte finalement à son comportement davantage que à sa volonté d'obtenir quelque chose de sexuel.
Tout à fait. En fait, la première loi, elle se posait du point de vue du harceleur qui on considérait que le harcèlement sexuel, c'était quand quelqu'un voulait une relation sexuelle. Or, en fait, nous, la plupart des victimes que l'association accompagnait, c'était pas forcément des femmes qui subissaient les avances répétées, mais ça pouvait être des femmes qui subissaient de l'humiliation, du dénigrement à caractère sexuel sur le lieu de travail. Pas forcément dans l'objectif d'obtenir donc un rapport sexuel. Et depuis 2012, on a une meilleure loi, bien plus complète, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc l'association, sa première action, ça a été une action politique de revendication pour que les lois changent, pour plus de protection de sanctions. Enfin, plus de protection des victimes, qui sont en immense majorité des femmes, et plus de sanctions des harceleurs et des agresseurs sur le lieu de travail. Et puis ensuite, l'association a commencé à accompagner, à intervenir auprès des victimes, à accompagner au jour le jour les victimes dans leurs actions judiciaires. Ça c'est la mission principale maintenant de l'association. C'est l'accompagnement des victimes, le soutien, la défense des victimes de harcèlement sexuel au travail.
Ça se passe par du conseil, aider à mettre en contact avec des avocats. Quelle est la nature de cette aide judiciaire ?
Alors, ça se passe par du conseil, effectivement. En fait, c'est compliqué de se faire reconnaître comme victime de harcèlement sexuel. Il y a encore énormément d'idées reçues, énormément de freins à l'accès à la justice. Et donc, nous, on les aide pour construire un dossier, pour construire un dossier qui va apporter le plus d'éléments de preuve pour qu'elles soient reconnues comme victimes. Donc c'est effectivement, on va les orienter vers des avocats et des avocates qui sont spécialisés sur ces sujets-là, que ce soit en droit du travail ou en droit pénal. Mais on va également les inviter à recueillir des attestations de proches qui ont constaté la dégradation de leur état de santé depuis le harcèlement sexuel qu'elles subissent, qui ont reçu les confidences qu'elles ont pu leur apporter. On va leur conseiller de demander une attestation à leur médecin traitant qui a constaté aussi les répercussions de ce harcèlement sur leur santé physique et psychique. On va les orienter vers l'inspection du travail, la médecine du travail, le défenseur des droits, tout un tas d'acteurs et d'actrices qui travaillent sur la santé au travail et la discrimination, et qui vont pouvoir les aider aussi à faire valoir leurs droits.
Très bien. Du coup, et dans les autres types d'actions, je connais votre action aussi de formation aux sociétés, aux particuliers, pour les sensibiliser à ce genre de problématiques.
Voilà, ça c'est la troisième mission. La première mission, c'est l'action politique. La deuxième mission, c'est l'accompagnement des victimes. Et la troisième mission, c'est la formation et la sensibilisation. Donc la sensibilisation, c'est à tous les publics, mais en particulier aux salariés ou aux agents de la fonction publique lambda. Et souvent, c'est les employeurs, en fait, qui nous contactent en disant « Nous, maintenant, on sait que il faut faire de la sensibilisation. Donc, on vous demande si vous êtes en capacité de sensibiliser tout notre personnel, par exemple. » Donc ça, c'est des moments qui durent trois heures à peu près. Et puis on a aussi des journées de formation parfois des salariés, de tous les salariés d'une entreprise, ou bien la plupart du temps des encadrants, des ressources humaines, et pour leur rappeler leurs obligations en tant qu'employeur.
D'accord, oui.
Pour leur expliquer ce que c'est que le harcèlement sexuel, pour leur déconstruire toutes les idées reçues sur les réactions des victimes, sur qui sont les agresseurs, sur les conséquences sur les victimes, etc. Et puis pour leur donner un peu des pistes sur comment faire une enquête, parce que normalement un employeur, quand il a la connaissance, quand il reçoit une dénonciation de harcèlement sexuel, en fait il doit tout de suite mener une enquête. Et la plupart des employeurs ne savent pas comment mener des enquêtes dans ce cadre-là.
D'accord, ouais.
Donc voilà, et puis on forme aussi les syndicats, et ça c'est très très important, parce que les syndicats sont peu interpellés par les victimes, sont peu identifiés par les victimes comme des structures pouvant les aider. Or, il y a dans les syndicats, de plus en plus, on forme des personnes qui vont être en capacité d'accompagner, comme nous on le fait, des victimes de harcèlement sexuel au travail.
D'accord. Et justement, pour faire la transition, et dans cette première partie, on aimerait bien comprendre la définition du harcèlement sexuel. Mmh. Il y a le texte de loi, il y a comment on l'interprète, et c'est sur ça que je vais vous laisser la parole.
Alors, depuis 2012, la loi a été réécrite. Il y a eu une abrogation de la loi, puis une réécriture de la loi. Et donc, maintenant, la loi, elle est très complète et elle ne se place plus du point de vue du harceleur, mais du point de vue de la victime. Et elle dit ceci. Le harcèlement sexuel, c'est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit porte atteinte à sa dignité en raison du caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est en fait un délit assimilé. Je ne me rappelle plus précisément.
Est assimilé au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, du coup, dans le but réel ou apparent
d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur ou au profit d'un tiers. Mmh. Donc ça, c'est une situation particulière dont on parlera dans la suite de l'émission.
Ouais. Alors aujourd'hui, dans votre association, vous êtes combien ? Vous êtes sur l'ensemble du territoire français ?
Ouais. Alors on est une toute petite association, mais on est la seule association en France spécialisée sur le harcèlement sexuel au travail qui accompagne les victimes tout au long de leur procédure qui dure minimum 4 ans, parce que le temps de la justice est un temps très très long, hélas. Nous, on fait un accompagnement qui est sur le long terme. Et notre association rassemble 5 juristes qui accompagnent les victimes. Moi, je suis formatrice. Et on a une secrétaire comptable qui nous aide.
D'accord. Donc, toutes ces personnes sont salariées et...
Oui, tout à fait.
Des permanents, quoi.
Voilà, ouais, c'est ça.
D'accord, ouais. Quand même, 6 personnes à plein temps.
Voilà, 6 personnes à plein temps, sachant qu'on est compétente sur toute la France et métropole et les territoires d'outre-mer. Et donc, on peut être appelé par des victimes de toute la France. Mmh. Et en fait, depuis l'affaire Baupin, le député des Verts qui avait été accusé par plusieurs de ses collaboratrices de harcèlement sexuel, puis l'affaire Weinstein, les demandes ont explosé. D'accord, dans l'association. Ouais. Et alors qu'auparavant, toutes les victimes qui nous appelaient, on ouvrait les dossiers pour les accompagner toutes sur le long terme. Maintenant, on est obligé de sélectionner, entre guillemets, les dossiers en fonction de certains critères parce que les sollicitations depuis l'affaire Weinstein ont été multipliées par 10.
Par 10 ?
Ouais. Environ.
Ok, ah oui, c'est énorme.
Donc on a une vraie sensibilisation à la fois des femmes qui se disent en fait j'ai ce que j'ai vécu et que je ne considérais pas forcément comme du harcèlement sexuel, en fait ça en est et c'est pour ça que je vais pas bien. C'est que ça en est, c'est grave, c'est pour ça que je vais pas bien. Et donc elles appellent maintenant plus rapidement qu'avant à la permanence. Alors qu'avant elles attendaient d'être agressées sexuellement ou violées sur le lieu de travail pour nous solliciter.
D'accord. Et
ça représente. L'affaire Weinstein a été vraiment un catalyseur de ça pour libérer cette parole.
Tout à fait.
Et ça représente combien de dossiers par an, du coup?
Alors actuellement, on a 250 dossiers ouverts.
D'accord, ouais, 250. Ok.
Mais je vous expliquerai, mais on a dû fermer notre permanence téléphonique pendant 4 mois en 2018 parce que on croulait sous les demandes et on ne pouvait plus faire du bon travail pour accompagner les victimes qu'on accompagnait déjà. Donc on a fermé notre permanence téléphonique, mais malgré ça, les victimes ont réussi à nous joindre parce que elles savaient qu'on avait une adresse mail, etc., ou par courrier. Et on a eu un nombre de saisine de l'association par les victimes qui a été croissant par rapport à l'année suivante. Donc.
Je vous propose de faire une petite pause musicale dans le sujet. On en reparle après.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi.
Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde?
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
Que c'est non.
Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein.
Moi, ce que j'ai compris, en fait...
Pardon, c'est que je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce que j'ai un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut tenter...
Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
Eh oui. Eh ben oui, ok. Mmh. D'accord.
Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
Ouais. Très bien, Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, mais c'est super.
Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien.
Oui, des petites remarques, toujours.
Quoi?
T'as
un problème?
Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vois, de les écouter.
Écoutez,
vois,
moi, j'écoute pas les femmes, moi, j'écoute pas les femmes.
Semblait.
On voit tous que t'as aucune sensibilité.
Excuse-moi. Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez...
Oh, tais-toi.
Ta gueule.
Pourquoi?
Elle intervient au milieu du... tout hystérique, là. C'est fou de faire ça.
C'est désagréable.
On parlait du désir. C'est con, pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui... Coupeuse.
Laisse-moi te chanter, t'allais te faire en... Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Au fond t'as compris, balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait, c'est non.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et l'émission Mode d'emploi animée par l'équipe de la 4e dimension ce soir est consacrée au harcèlement sexuel. On accueille donc Jessica, donc qui était une victime de harcèlement accompagnée par l'association et qui aujourd'hui... et membre et même membre du conseil d'administration de l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail.
Et moi je vous propose, on a eu une définition rapide de ce qu'était le harcèlement, de mettre cette définition à épreuve parce qu'elle n'est pas si évidente que ça. On a dit beaucoup de mots et du coup je vais laisser je vais te laisser Isabelle faire quelques questions sur ce quiz et voir, vous laissez vous auditeurs vous positionner, on vous laissera quelques secondes pour réfléchir, on réfléchira aussi nous de notre côté ensemble à donner une réponse qui convient.
C'est un quiz qu'on utilise en formation qui permet de bien comprendre ce que c'est que le harcèlement. Donc la première question qu'on pose lors de ce quiz c'est est-ce que mettre une main aux fesses à une collègue c'est du harcèlement sexuel?
On laisse quelques secondes.
Donc mettre une main aux fesses à une collègue, Du coup, Corentin,
je te laisse répondre.
Je dois avouer que j'ai bachoté avant, donc je connais les réponses. Mais du coup, non, ce n'est pas du harcèlement, c'est plus grave.
Tout à fait. Mettre une main aux fesses, c'est plus que du harcèlement sexuel dans le code pénal. C'est une agression sexuelle. Dans le code pénal, il y a différentes infractions à caractère sexuel, et donc l'agression sexuelle, c'est puni plus sévèrement que le harcèlement sexuel. C'est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, alors que le harcèlement sexuel, les peines encourues, c'est 2 ans d'emprisonnement et 35 000 euros d'amende. Tu me corriges, je ne sais plus si c'est 35 000 ou 45 000.
C'est les informations que j'avais, donc c'est cohérent.
Donc voilà, les peines encourues sont plus graves parce que le code pénal considère que l'agression sexuelle, c'est plus grave. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agression sexuelle? C'est défini comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toucher une partie du corps connotée sexuellement. Et connoté sexuellement par la jurisprudence. La jurisprudence a décidé qu'il y avait 5 zones du corps qui étaient des zones considérées comme sexuelles. Et si on touche sans votre consentement une de ces 5 zones, eh bien c'est une agression sexuelle. Voilà. Donc je vous laisse deviner quelles sont ces 5 zones.
On va le faire rapidement. J'imagine la bouche.
Oui, les baisers forcés.
Le sexe, les fesses.
Oui.
Les seins.
Les seins.
Et les cuisses.
Et les cuisses. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est... Donc en fait, il y avait un piège, mettre une main aux fesses, c'est plus que... C'est pas du harcèlement sexuel, c'est une agression sexuelle.
Une agression. D'accord.
Et du coup, on va passer à la question suivante.
Question suivante.
Oui. Alors, siffler une collègue en disant qu'elle a un beau petit cul, est-ce que c'est du harcèlement sexuel?
Je ne ferai pas le décompte à la bouche. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Ouf. Laurent,
moi, je dirais oui, puisque c'est humiliant. Donc, j'imagine que ça rentre dans les critères.
Alors, effectivement, c'est humiliant. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on peut se dire que si ça n'arrive qu'une fois, ça ne rentre pas dans la définition pénale. Du code pénal, parce que ça n'est pas répété. Et le harcèlement sexuel, c'est les propos et comportements à connotation sexuelle répétés. Mais là, il y a une circulaire pénale qui a été, une circulaire d'application qui a été rédigée et envoyée ensuite à tous les magistrats pour leur expliquer comment interpréter cette loi, et qui explique que 2 situations suffisent. Deux propos ou comportements suffisent à caractériser du harcèlement sexuel.
Et puis j'imagine il y a aussi les circonstances, c'est-à-dire si c'est d'ordre privé, enfin s'il y a que les deux personnes ou s'il y a toute l'entreprise qui est présente, j'imagine qu'on peut aussi le côté humiliant est vraiment
encore
différent.
Plus,
enfin, je sais pas, mais
effectivement, c'est vrai que c'est encore plus humiliant quand on.
Quand il y a un public,
quand
quoi.
Mais de toute façon, ça peut être terriblement humiliant, aussi quand on est seul, et en plus, ça peut faire peur.
Afin de laisser un petit peu de temps à Jessica après pour développer des cas réels et expliciter vraiment ce que c'est au quotidien le caractère de harcèlement sexuel et comment ça en empathie, je propose de choisir une dernière question.
Alors. Par exemple, proposer une promotion ou un emploi contre un rapport sexuel, est-ce que c'est du harcèlement sexuel?
Du coup, pas dans la définition initiale, mais si j'ai bien compris, dans la partie associée, effectivement.
Ouais. Donc, est assimilé au harcèlement sexuel, le fait même on répétait, d'user de toute forme de pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Donc là, c'est ça, une pression grave c'est une pression grave de proposer un emploi.
Donc ça, c'est dans la deuxième partie de la loi, ce que vous disiez.
C'est ça. Là, il n'y a pas besoin de répétition. C'est pour quelqu'un qui est en grande précarité. Proposer un rapport sexuel contre un emploi, c'est une pression grave, et donc c'est considéré comme du harcèlement sexuel. Ça pourrait même être considéré comme du proxénétisme, en fait, parce que c'est effectivement parce que là, dans la partie de la définition, c'est au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Donc, par exemple, un patron qui demande à une de ses commerciales d'être gentille avec son client. pour décrocher un marché, ben on peut assimiler ça à du proxénétisme. Et là, on encourt des peines beaucoup plus graves.
Et je trouve ça intéressant aussi de noter que on pourrait penser que la personne, elle a le choix en face de dire non. Mais en fait, elle sait aussi bien que si elle dit non, elle peut être virée et qu'il y a une vraie pression. Que
la la contrainte économique, elle est forte. On est dans une période de chômage massif. En plus, le marché du travail n'est pas du tout en faveur des femmes. Enfin, donc, les contraintes économiques sont fortes. On n'a pas envie de perdre son emploi. Et donc, la question du choix, pour certaines, elle est extrêmement difficile. Quoi.
Et est-ce que, justement, les personnes qui sont, par exemple, des femmes seules avec des enfants sont davantage ciblées, enfin les personnes qui sont un peu en situation de précarité sont davantage victimes.
Les personnes en situation de précarité, dans une période de vulnérabilité temporaire par exemple, sont identifiées par les harceleurs comme des victimes qui auront moins de capacité de se défendre ou en tout cas seront très dépendantes de leur emploi et donc auront plus de difficultés à refuser par exemple des avances ou à dénoncer les faits de harcèlement.
C'est-à-dire, ce que je comprends, c'est qu'un harceleur, c'est un prédateur. C'est-à-dire, on n'est pas harceleur par hasard en ayant dit siffler une fille dans la rue occasionnellement. On est harceleur parce qu'on a un profil psychologique dans ce sens-là. Vous me corrigez si je vais trop loin dans la simplification. Et du coup, ça pose problème dans ce cadre-là.
Alors moi, je dirais pas qu'il y a de profil psychologique. C'est des gens qui sont des manipulateurs et qui simplement s'organisent pour faire ce qu'ils ont envie de faire en toute impunité. Et donc, pour ne pas être puni, eh ben, il faut, pour ne pas risquer une punition, une sanction, il faut faire ça sur des, enfin, il faut exercer son harcèlement sur des personnes qu'on identifie comme des personnes fragiles. On peut se tromper, parfois. Et parfois, ils se trompent, mais.
Peut-être, Jessica, on peut vous laisser témoigner sur ce que vous avez vécu et puis après aussi, peut-être sur les procédures ou l'aide qu'a apporté l'association.
Bonsoir. Bonsoir. Donc j'ai été harcelée sexuellement pendant une période d'environ une année par le chef de la police municipale de la commune dans laquelle je travaillais en tant que secrétaire. Ça s'est traduit par donc au début ça a commencé par en fait il a tissé son emprise en essayant de m'isoler, en essayant de me convaincre que tout le monde était hostile à mon recrutement au sein de la police municipale et que c'était le seul qui était bienveillant, qui était susceptible de me protéger, etc. Et il a fait en sorte que je sois reconnaissante envers lui de par l'hostilité artificielle, du coup je l'ai su qu'a posteriori qu'il me présentait de la part des autres collègues. Donc parallèlement à ça, il se confiait beaucoup sur sa vie privée et il essayait de me poser des questions sur la mienne. Donc moi j'étais très fermée sur ma vie privée, je ne lui parlais pas de ma vie privée. Le problème c'est qu'une fois que l'emprise est en place, vous êtes victime mais vous ne le réalisez pas encore, vous ne pouvez pas le réaliser. Vous êtes dans une position où vous avez de l'empathie, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, vous avez de l'empathie pour le harceleur que vous ne définissez pas comme tel, parce qu'il prétend souffrir, parce qu'il prétend que c'est plus fort que lui, et vous n'êtes pas du tout en capacité d'analyser ça comme une stratégie d'agresseur, de prédateur, comme quelque chose de structuré, de prémédité, etc. Et donc, progressivement, il s'est mis à me faire des propositions, à m'envoyer des mails pornographiques, etc. Il a été jusqu'à me proposer une arme, parce que lui adorait les armes et il supposait que j'étais susceptible de partager cette passion, ce qui n'était évidemment pas le cas. Il m'a proposé d'acquérir une arme en échange d'un rapport sexuel. Et... Donc voilà, ça a duré à peu près une année au sein de la police municipale.
Et quel est le facteur qui fait se rendre compte justement qu'on est une victime ? Parce qu'effectivement, de ce que j'en comprends, c'est une sorte de toile d'araignée qui se tisse au fur et à mesure. Quelle est la chose qui fait qu'on s'en rend compte et qu'on peut commencer à une démarche ? Je ne parle pas encore d'une démarche juridique, mais au moins intellectuelle.
Je pense que le déclic, la plupart du temps, ça doit être, c'est quelque chose de très personnel. Je pense que moi, personnellement, à un moment donné, je lui avais répondu agressivement dans le cadre du travail, mais parce que évidemment, j'ai été dans un dans une atmosphère de travail qui était très délétère et dans laquelle je suffoquais. Donc, il y a eu un incident professionnel et donc je lui ai répondu agressivement. Et suite à cette réponse agressive, il a exigé de ma part des excuses. En présence de son N+1, donc de mon N+2, le directeur général adjoint. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic, en fait. Le fait qu'il m'oblige, qu'il me contraigne à lui présenter des excuses pour quelque chose de complètement superficiel et qui, en plus, traduisait la fébrilité dans laquelle lui m'avait mise par son harcèlement, a déclenché quelque chose en moi et a fait que le vase a débordé à ce moment-là.
Et du coup, quand ça déborde, on se confie auprès de sa famille, auprès de collègues. Alors, vous étiez isolé, j'imagine, c'est pas le cas. Comment ça se passe? À quoi on pense en premier quand on voit? Parce que, grâce à notre émission, je pense que les gens qui nous écouteront penseront à des associations. Est-ce que c'est un réflexe qu'on a?
Pas du tout. En tout cas, pas dans un premier temps. J'avais déjà évoqué ce que je subissais, mais pas dans les réelles proportions à mon compagnon. Mon compagnon de l'époque, qui n'a pas été très réactif, ce qui ne m'a pas aidé dans le processus de dévoilement des violences. J'avais déjà évoqué donc ces violences à mon conjoint. Ensuite, quand le harceleur m'a imposé ses excuses, j'ai décidé de demander un changement de service à ma hiérarchie, mais dans un premier temps, j'ai pas souhaité dévoiler les réelles raisons. Donc j'ai simplement dit ce qui était déjà vrai et grave, que c'était quelqu'un de très raciste et qui faisait du prosélytisme front nationaliste à longueur de journée, et que pour cette raison-là, je souhaitais changer de service. Le problème, c'est que à ce moment-là, c'était à la fin du mois de décembre. Mon directeur général des services m'a proposé de me changer de service que après les élections municipales, donc de 2008, qui étaient en fin mars, début avril 2008. Donc, ils voulaient pas faire de vagues, donc ils voulaient pas me changer de service. Ils avaient peur que cette histoire soit révélée et que ça puisse leur nuire, je suppose, électoralement parlant. Donc, ils m'ont proposé.
D'accord, donc ils étaient au courant quand même un peu qu'il y avait des débordements de sa part sans connaître les détails, c'est ça?
Voilà, enfin, dans un premier temps, j'ai parlé que du racisme. Quand on m'a donné l'échéance de fin mars, avril des élections municipales de 2008, alors qu'on était à ce moment-là en décembre, je me suis pas sentie capable de supporter le harcèlement encore 3-4 mois. Donc, au bout de quelques jours, j'ai transmis l'ensemble des mails pornographiques que j'avais gardés, que m'avait envoyé le harceleur, à l'ensemble de ma chaîne hiérarchique, pour qu'ils réduisent le délai et qu'ils m'extraient immédiatement du service.
Ce qu'ils ont fait ou
pas du tout, non. Ils sont restés sur le fait qu'il fallait pas faire de vagues avant les élections municipales. Et donc, ils m'ont invité à continuer à me faire harceler quelques temps, 3-4 mois. Et c'est uniquement quand j'ai insisté en leur disant, il me propose une arme, il m'a montré des armes, il m'a montré 3 armes, il m'a demandé de choisir le pistolet que je préférais. C'est quand j'ai insisté là-dessus que mon directeur général des services a fini par me dire, bon, si vous nous remettez cette arme, alors à ce moment-là, on vous extraira du service. Voilà. Donc c'était du chantage à l'intérieur déjà d'un harcèlement. Donc ils m'ont posé comme condition sine qua non d'obtenir cette arme pour pouvoir sortir et pour arrêter de subir le harcèlement sexuel.
Ça paraît hallucinant. Et
j'ai des preuves de tout ça.
Ouais.
Et du coup, on voit la nuisance au travail, qui est un cas, mais qui forcément se répercute sur la vie privée. Alors, je ne sais pas si dans votre cas, Jessica, ça a été le cas, mais dans d'autres, ça l'est, où l'état personnel, l'état physique de la personne est très impliqué. On ne se rend pas forcément compte de ça. Est-ce que ça a été le cas ou...
J'ai fait une dépression réactionnelle au harcèlement sexuel que j'ai subi. Après, c'est vrai que je suis pas capable de séparer la part de destruction psychologique du harcèlement sexuel en lui-même de manière isolée et la part du harcèlement moral que j'ai subi par ma hiérarchie ensuite, parce que j'ai été placardisée, enfin ça a été très compliqué, ils ont tout fait pour me virer, ils ont fini par me virer 4 ans plus tard, et donc en tout cas j'ai eu essentiellement, je pense quand même, en tout cas à l'époque, eu une dépression réactionnelle au harcèlement sexuel que j'ai subi, qui s'est traduit par grosso modo 2 ans d'arrêt maladie, dont 19 mois d'affilée.
D'accord, ouais.
Et par une hospitalisation en hôpital psychiatrique.
D'accord, ouais. Et alors, est-ce que c'est des choses qu'on retrouve, Isabelle? C'est un parcours, on va dire, malheureusement classique chez
la plupart des victimes qui sont accompagnées par la VFT ont effectivement sont sous antidépresseurs, anxiolytiques, sont en dépression, effectivement. Oui, parce que le harcèlement sexuel, c'est usant, c'est destructeur, c'est l'humiliation au quotidien, c'est de l'épuisement.
Et je trouve ça intéressant dans cette émission de mettre ça en avant, c'est-à-dire que je pense qu'un bon nombre de personnes disent « elle a reçu quelques mails, voilà, elle a qu'à les mettre sous le dossier, c'est pas si grave que ça ». En fait, quand on vit ça de l'intérieur, ça a une proportion... on voit les choses de façon réelle, et c'est ça qui manque et que les gens doivent comprendre, que c'est une vraie pression au quotidien qui remet en cause une vie.
Bah, c'est une effraction psychique, en fait. Vous avez quelqu'un qui vous colonise, en plus le fait que ce soit du harcèlement sexuel fait que logiquement c'est d'autant plus délétère, c'est quelque chose qui touche d'autant plus à l'intime, et oui, ça peut être extrêmement délétère pour la santé psychologique et sur de longues années.
Et du coup, on va se laisser un petit répit suite à ce témoignage par une pause musicale.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. L'émission en mode d'emploi est animée ce soir par l'équipe de la 4e dimension et est consacrée au harcèlement sexuel.
Je vais reprendre la parole pour poser une question. On a vu, je suis désolé de faire un cas d'école, un cas classique où il n'y a pas de doute, mais il y a d'autres cas un peu plus pernicieux, et on parlait hors antenne du cas environnemental, du harcèlement environnemental, et je trouve que c'est une notion importante sur laquelle je vais vous laisser vous exprimer, Isabelle.
Je trouve que c'est important qu'on en parle parce que effectivement il y a eu une décision de justice qui fait donc jurisprudence, ça veut dire qu'on peut maintenant la mobiliser pour d'autres procès, qui nomme un type de harcèlement comme du harcèlement sexuel environnemental. En fait, c'est l'histoire donc d'une journaliste qui a 25 ans d'expérience dans un journal local et qui subit des propos à caractère sexuel dans un open space, mais c'est des propos qui sont échangés entre ses collègues
qui lui sont pas destinés,
qui ne lui sont pas destinés. Elle n'est pas visée par ces propos, mais elle les entend toute la journée. Ils sont extrêmement crus, ils sont extrêmement sales, ils sont extrêmement dévalorisants et misogynes. Elle leur dit. En plus, ils viennent. Ils sont tous les trois jeunes journalistes sortis de l'école et ils viennent d'arriver dans la rédaction. Elle a 25 ans d'expérience et donc et puis elle est syndicaliste, donc elle va leur dire c'est bon, vous arrêtez, ça suffit, c'est insupportable. Et ils leur répondent non, mais c'est on a le droit de dire ce qu'on veut, c'est la liberté d'expression. Et puis de toute façon, tu n'es pas visé, donc t'as qu'à mettre un casque, des écouteurs et voilà. Et donc en fait, cette personne-là a interpellé ensuite, enfin leur a demandé à plusieurs reprises de cesser ces propos, et puis ils ont commencé à télécharger des images en écran de veille sur leur écran d'ordinateur, donc elle voyait ça à côté, enfin dans l'open space, ils ont collé des affiches à caractère pornographique.
Ils ont aggravé les choses.
Donc c'était vraiment un environnement sexualisé et misogyne constant auquel les autres collègues s'étaient habitués, mais elle n'a pas réussi à s'y habituer. C'était trop violent et elle est tombée malade. Enfin, elle en a fait une dépression.
D'accord, parce que
c'était humiliant, usant, dégradant. En plus, elle a été isolée du collectif de travail parce qu'elle disait que ça ne lui plaisait pas. Donc, c'était elle qui était, en fait, la rabat-joie, celle qui
n'a
pas d'humour, celle qui dérange, etc. Et donc, quand elle en a parlé à l'employeur lui a dit « Non, mais t'es assez grande comme ça, je te laisse te débrouiller. » Or, l'employeur, en fait, il a une obligation de mettre un terme au harcèlement sexuel, de faire de la prévention et de sanctionner. Et ça, c'est dans le code du travail. Et donc, quand cette journaliste nous a saisi, enfin a saisi la VFT, on a attaqué l'employeur au prud'homme. Et c'est donc au prud'homme une décision de justice qui dit que même sans être visée, même sans que la personne soit directement visée, si les propos lui deviennent insupportables, ses conditions de travail en sont considérablement dégradé. Eh bien, c'est ce qu'on peut appeler du harcèlement sexuel environnemental. Et moi, je trouve que c'est très très important parce qu'en fait, c'est extrêmement banalisé. Ces propos qu'on peut entendre à la machine à café ou à la cantine ou en open space et dont on sait qu'ils dégradent l'image des femmes, ils dégradent les femmes. Et en tant que femme, on n'ose rien dire parce qu'on se dit, ben voilà, c'est une question d'opinion, etc. Chacun dit un peu ce qu'il veut. Mais en même temps, ben nous, ça nous infériorise tous les jours.
D'accord, ouais. Donc c'est cette notion de harcèlement sexuel environnemental. Donc là, c'est au travail, mais ça peut être aussi...
Alors c'est vrai qu'elle a été qualifiée au travail.
Ouais.
C'est en lien avec... étant donné que c'est l'employeur qui a été condamné, l'employeur, il a été condamné au prud'homme pour le préjudice subi par la victime. Mais pour l'instant, c'est pas une définition qui est consacrée dans d'autres environnements que l'environnement de travail.
Mais c'est vrai qu'il y a aussi dans la rue, dans les publicités, un environnement qui est aussi sexiste, avec les publicités ou même dans
certaines, la culture, en fait,
ouais,
dans la culture française, dans certains
propos.
On dit une femmelette, ça reste, même si c'est moins usité. Il y a des connotations à la femme qui est sexe faible.
Tout à fait.
On l'entendait dans le morceau de Angèle où, et d'ailleurs dans des chansons de Brassens, une femme, si elle dit non d'abord, peut-être en fait c'est oui, on peut l'embrasser, et puis on voit après. Il y a toute cette culture qui est au quotidien.
Dans la chanson, dans les films, dans les publicités, partout en fait, c'est très banal l'infériorisation des femmes et l'hypersexualisation des femmes, le fait que les femmes soient considérées comme des objets sexuels au service des hommes, c'est quelque chose d'extrêmement banal et c'est le terreau pour sur lesquels se développent les violences sexuelles à l'encontre des femmes.
Et alors, comment on en sort de tout cela? Est-ce qu'on a des pistes d'action?
Et Jessica, est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus ou...
Moi, dans mon cas personnel, je dirais qu'il faut que la législation évolue, mais précisément pour la fonction publique territoriale, donc puisque c'est ce qui me concerne. Il y a des choses que je trouve complètement aberrantes, et notamment le fait que l'organe décisionnaire médical, donc qui décide de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, donc en fait c'est l'équivalent de la Sécu, mais pour le public, donc qui s'appelle la commission de réforme, qui est notamment donc composée de médecins, qui parfois, en tout cas dans mon cas, demandent des expertises psychiatriques d'experts de la DASMA. Donc on va vous faire une expertise psy. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai été donc déclarée comme étant en dépression réactionnelle à un harcèlement sexuel au travail. Donc il y avait aucune ambiguïté et sur la réalité de la pathologie et sur son origine. Pour autant, le maire a décidé de ne pas suivre cet avis parce que l'avis n'est que consultatif. Ça, par exemple, je trouve que c'est complètement aberrant. À quoi ça sert de mettre des organes parallèles qui sont censés être des autorités parallèles, voilà, qui permettent, parce que les compétences sont différentes, etc., si au final, le pouvoir suprême reste au maire et qu'il a la possibilité de dire, bon, ben non, les experts psy, vous ne savez pas ce que vous dites, vous ne savez pas de quoi vous parlez, moi, je décide que ce n'est pas une maladie professionnelle.
D'accord. Et donc, dans votre cas, le policier n'a pas été sanctionné ?
Non. Il a été blanchi et il a fallu que j'aille au tribunal administratif pour la reconnaissance de ma maladie professionnelle parce que le maire avait décidé que c'en était pas une alors que l'organe médical l'avait déclaré comme tel. Donc par exemple là, je me dis qu'il y a quand même un gros problème à partir du moment où des médecins disent il y a une dépression et elle découle de ça. Aucun maire ne devrait pouvoir avoir le pouvoir de dire le contraire.
Bien sûr. Est-ce qu'on manque aussi de décisions de justice pour la punition, la pénalisation.
Le gros problème, c'est effectivement l'impunité des harceleurs et aussi l'impunité des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de prévention. Parce que il faut savoir que l'employeur, il a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Et donc, il a l'obligation de faire que l'environnement de travail soit un environnement de travail exempt de harcèlement sexuel et de toute violence, de toute façon. Mais on est surtout là face à une impunité aussi des agresseurs au pénal. Il y a une grosse déficience de la justice pénale. Donc la justice pénale, c'est quand on porte plainte au commissariat, à la police, et puis en général, il y a un procureur qui reçoit les plaintes. Et donc pour 83% des plaintes pour harcèlement sexuel, le procureur décide un classement sans suite. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de procès. Et il n'a pas à justifier de ça. Il n'a pas à justifier du pourquoi il classe.
Et on en connaît les raisons. C'est des raisons politiques, c'est des raisons culturelles.
Alors, c'est des raisons à la fois culturelles liées au système patriarcal dans lequel on est.
C'est des hommes.
Pas forcément, non. Mais non. Les hommes comme les femmes intègrent les stéréotypes sexistes. Et puis les femmes qui rentrent dans une profession anciennement masculine doivent se couler dans le moule, donc en général ne sont pas plus féministes que les hommes. Mais c'est plutôt voilà la culture patriarcale, une volonté politique, une non volonté politique, parce qu'on pourrait en faire une priorité politique et décider de mettre le paquet sur les enquêtes qui concernent qui font suite à des plaintes pour harcèlement sexuel. Et puis il y a un gros problème de moyens de la justice en France. Mmh. En fait, c'est en France, je crois, c'est 75 euros par habitant, la moyenne de dépenses de justice. Et dans d'autres pays, c'est 150 euros, 200 euros. Et c'est le 22e pays sur 28. En termes de moyens accordés à la justice, tout type d'infractions confondues. Donc on a vraiment un gros problème de moyens. Donc effectivement, les procureurs, ils vont décider de classer sans suite parce qu'ils n'ont pas assez de place pour faire des audiences. Ils n'ont pas assez de moyens, ils n'ont pas assez de juges, etc. Et puis, c'est une question de moyens et de volonté politique.
Est-ce qu'il y a des aides psychologiques aussi pour les victimes, puisqu'on est quand même des harcèlements qui sont à la fois harcèlement moral et sexuel?
Il y en a, mais c'est comme tout. Les psychiatres qui sont remboursés sont rares. Leurs consultations sont prises d'assaut et les psychologues sont pas remboursés et les victimes de harcèlement sexuel en général ont perdu leur emploi pour la plupart ou sont en arrêt maladie et ont perdu une partie de leurs revenus, donc sont dans une grande précarité et donc ne peuvent pas se permettre d'avoir accès à des soins psychologiques qui sont liés au traumatisme qu'elles ont subi.
Sur le sujet touche malheureusement à sa fin. En message global, moi je vous encourage, vous auditeurs, à aller vous renseigner sur le sujet parce que effectivement on se rend compte que les femmes se rendent pas forcément elles-mêmes compte du fait qu'il y a cette pression là et donc pour en sortir et pour les hommes pour aussi le voir et s'améliorer là-dessus. Vous pourrez réécouter...
Peut-être le site de l'association ?
Oui, vous pouvez voir le site. Sur le site, il y a plein d'articles. Donc, c'est avft.org.
L'émission touche donc à sa fin. Vous pourrez la réécouter sur le site Mode d'emploi, comme nous l'avons dit en début d'émission. Le prochain numéro de l'animation de la quatrième dimension du créneau de Mode d'emploi portera sur les réformes de l'université, tout autre sujet. On vous remercie de votre participation, de votre témoignage.
Merci à vous.
Et on laisse place à la musique.
Merci, à bientôt, bonne soirée. Au revoir.